Bonjour, vous êtes venus si nombreux en cette fin de soirée. Donc, ça va être la troisième session sur l'Europe. Et je pense que les deux premières sessions ont parlé des différences de compétitivité, qui est effectivement un gros problème en Europe actuellement. Et également, il y a une autre session sur le rebond après la crise. Et nous, on va parler de façon, si j'ose dire, encore plus en amont, d'un problème qui, me semble-t-il, comme vous a montré ce dessin, est vraiment au cœur de la construction européenne. Je me souviens, en 1989, au moment de la réunification, de la chute du mur de Berlin et de la réunification allemande, il y avait un mot d'ordre, une sorte, en Allemagne, c'était de dire, le chancelier Kohl, je crois, et également l'ex-chancelier Willy Brandt, avaient la même formule, on rassemble ce qui se ressemble. Je crois que toute la construction européenne a été faite presque sur une problématique assez différente et tout aussi ambitieuse. Au lendemain de la guerre, on a voulu rassembler des États qui avaient fait la guerre pendant la plus grande partie de leur histoire. Donc on a voulu rassembler des modèles, des nations extrêmement diversifiées et voire antagonistes. Et ce problème reste aujourd'hui plus que jamais d'actualité, puisqu'on a cru tout au long de la construction européenne que ça y était. Par exemple, en 1958, les gens qui ont fait le traité de Rome ont cru que c'était fait, que l'Europe était réalisée. On s'est aperçu qu'on était loin du compte. Ce n'était pas parce qu'on commençait à supprimer les barrières douanières qu'on faisait une véritable union. Et on a découvert au fur et à mesure l'ampleur du problème, si j'ose dire. Et aujourd'hui, 12 ans après la monnaie unique, on s'aperçoit qu'il y a au contraire des diversités des économies, des modèles sociaux qui posent un problème énorme. Beaucoup de gens pensent que c'est même à l'origine de la crise, et je renvoie au livre de Patrick Artus qui vous a déjà été présenté. Donc, pour traiter de cette question absolument fondamentale au cœur de la crise actuelle, qui est sans doute qui explique en grande partie les difficultés de l'Europe, et donc on a un panel très diversifié. De ma gauche à ma droite, si j'ose dire, Yves Algan, qui est professeur... Yann Algan, qui est professeur à l'Institut d'études politiques de Paris et qui a publié un livre passionnant et co-auteur en début d'année qui s'appelle « La fabrication de la défiance ». C'est un livre que je vous recommande de lire sur le modèle français qui va très loin, qui explique que le manque de confiance des Français entre eux remonte, par exemple, au modèle d'éducation. C'est assez un diagnostic assez, je veux dire, assez sévère, mais je vous en recommande la lecture. À ma gauche, Patrick Artus, qui est un des piliers de ces journées, puisque je crois que c'est sa troisième ou quatrième prestation. À ma droite, également, Madame Peck, que vous avez déjà entendu, je crois, deux trois fois. Voilà. Encore un peu plus à droite, bien qu'il soit député socialiste, Monsieur Razzi Hammadi. Et à l'extrême droite, géographiquement, Christian de Boissieu. Qui est professeur d'économie à Paris 1 et membre du collège de l'AMF, et à qui je vais demander d'introduire les débats, de faire une sorte de, mieux que je ne l'ai fait, un petit peu de camper la problématique. Et chacun, pour ce premier tour de parole, aura 7 à 8 minutes pour s'exprimer. Christian, c'est...
Merci bien. Vous avez compris que ma position géographique n'a pas d'autre conséquence qu'une position géographique. Moi, je trouve que le thème qui nous est proposé est à la fois passionnant et difficile. Je me permets de commencer par là, non pas pour excuser des faiblesses dans mes propos, mais pour dire que je trouve que c'est difficile à cerner. Pourquoi ? Parce que, d'abord, au fond, la notion de modèle peut avoir soit un contenu normatif, quelque chose qu'il faut chercher à reproduire, à imiter. Et c'est comme ça que dans le débat politique français, En 1995, certains d'entre vous s'en souviennent, au moment de l'élection présidentielle, on parlait du modèle néerlandais. Jusqu'au moment où on s'est aperçu que on parlait du modèle néerlandais parce qu'on trouvait que le taux de chômage aux Pays-Bas était extrêmement bas. Évidemment, par rapport à nous, ce n'est pas très difficile. Par rapport à nous, et on s'est rendu compte que les Néerlandais avaient un taux de chômage relativement bas parce qu'ils comptabilisaient les handicapés d'une certaine façon qui faisait baisser le taux de chômage. Bon. Ensuite, dans les élections présidentielles suivantes, on a parlé du modèle nordique, tu l'as dit, flexi-sécurité, c'est-à-dire permettre une certaine souplesse dans la création et destruction d'emplois, mais sécuriser les parcours individuels. C'est ça qu'il y a derrière la notion de flexi-sécurité. Et puis, de manière constante, dans le débat politique et économique français, il y a en toile de fond le modèle allemand. Bon, ça également, c'est normatif, et regardez tous les débats sur la convergence ou pas la convergence. Moi, j'ai fait partie, il y a un peu plus d'un an, d'une commission qui s'appelait la commission Migaud, du nom du président de la Cour des comptes, sur la convergence fiscale franco-allemande. La convergence fiscale franco-allemande, ça intéressait les Français, ça intéressait pas du tout les Allemands. Donc c'était un intérêt asymétrique sur ces problèmes de rapprochement. Donc la notion de modèle ici est utilisée comme une sorte d'objectif à atteindre. Et puis, modèle peut être aussi utilisé de manière moins normative en disant, voilà, c'est un exemple, j'allais dire historiquement, géographiquement, défini. Quand on parle du modèle français, je ne suis pas sûr qu'on le prenne nécessairement au sens normatif du terme. En tout cas, sur un certain nombre de points, ce n'est pas nécessairement dans ce sens-là qu'on le prend. Première remarque. Deuxième remarque, je pense qu'on aurait eu cette discussion il y a quelques années. On aurait parlé du modèle socio-économique, c'est-à-dire la division entre ce qui relève de l'État, ce qui relève du marché, ça reste très important. La pondération entre des considérations d'efficience économique et de répartition, ça reste très important. Un modèle économique ou une expérience se définit aussi de la manière dont cette expérience pondère, des considérations de croissance, d'efficience d'un côté, de répartition, de redistribution de l'autre, avec tout le débat sur la politique fiscale et le rôle de la fiscalité comme instrument de redistribution. Donc, on voit bien ces dimensions-là. Il me semble qu'on ne peut pas faire l'impasse aujourd'hui, ou il ne faut pas faire l'impasse sur une autre dimension du modèle, qui est la dimension, environnementale et énergétique. Bon, la manière dont une économie, un système, aborde aujourd'hui les questions d'environnement, d'énergie, je pense... Alors, c'est difficile d'articuler tout ça, le social, l'économique, l'environnemental, l'énergétique, mais je pense que ça fait partie de notre boulot. Troisième remarque, moi j'en veux un peu... Je cache pas... Mes préférences, j'étais et je reste pour la monnaie unique. Assez vite, j'ai compris qu'il y avait quand même un sujet avec le traité de Maastricht. Il y en a plusieurs, il n'y en a plus qu'un. Mais il y en avait quand même un et qui est un peu au cœur du débat. C'est que le traité de Maastricht a privilégié ce qu'on appelle la convergence nominale. C'est-à-dire les questions de taux d'inflation, taux d'intérêt à long terme, les soldes de finances publiques, déficit et dette publique. Et pour des raisons... politique. C'est-à-dire, à l'époque, il n'y avait pas d'accord entre les pays européens pour parler dans le traité des problèmes qui sont quand même sans doute plus importants, qui sont les problèmes de l'économie réelle, pour utiliser le terme d'aujourd'hui. Et donc, dans le traité de Maastricht, on ne parle pas de la convergence réelle, on parle que de la convergence nominale. Il y a une sorte d'illusion nominaliste dans le traité de Maastricht dont on paye, à mon avis, encore aujourd'hui les conséquences. On paye les conséquences parce que, pourquoi ? Parce que, au fond, on pensait, et je me mets dedans, je ne me mets pas à l'écart de ça, on pensait que l'existence même de la monnaie unique allait nous rapprocher sur ces problèmes d'économie réelle, allait nous rapprocher dans ce qui concerne le fonctionnement de nos économies, en ce qui concerne les performances de croissance, j'allais dire les questions de productivité, de compétitivité. En fait, et on retrouve la question de la Grèce aujourd'hui à travers ce que je suis en train de dire, en fait la monnaie unique n'a pas engendré des processus de convergence réelle tels qu'on les attendait avant 99, c'est-à-dire avant l'entrée dans l'euro. Et au contraire, les écarts, il y a un certain nombre d'écarts qui se sont accentués et dont on voit aujourd'hui les conséquences. Les conséquences économiques et sociales, c'est la Grèce, c'est le Portugal, c'est une grande partie de l'Europe du Sud, etc. Et ayant dit ça, quatrième remarque, derrière ces problèmes de convergence ou de divergence, de diversité et d'hétérogénéité, moi je défendrai la thèse suivante, pour être bref, pas être trop long, qui consiste à dire, moi je pense que la diversité des modèles socio-économiques, énergétiques, environnementaux à l'intérieur de l'Europe peut être une chance, tant qu'elle ne dépasse pas un certain seuil. J'ai introduit la notion de seuil. Alors vous allez dire, le seuil c'est qualitatif, je ne sais pas le mesurer a priori, et donc c'est peut-être une manière d'évacuer le débat. Non, c'est une manière de dire que même si je ne sais pas mesurer le seuil à partir duquel il y a des problèmes, j'allais dire, l'histoire répond pour nous, et l'expérience qu'on fait de crise dans la zone euro depuis 3 ans est un début de réponse. Je suis persuadé que la diversité de nos modèles ou de nos expériences à l'intérieur de l'Europe, des 27, et spécialement des 17 de la zone euro, peut être une chance, parce que au fond, il faut profiter aussi de cette diversité. Chaque pays arrive avec sa culture, son héritage culturel, ses avantages comparatifs et ses désavantages comparatifs. Il ne s'agit pas de les gommer du jour au lendemain. Il y a des problèmes lorsque, je dirais, les écarts ou les diversités dépassent un certain seuil. Parce que là, on retrouve, au fond, une des questions qui est posée depuis que la crise de l'euro a commencé, depuis pratiquement 3 ans, c'est-à-dire, à partir d'un certain seuil, l'hétérogénéité intra-européenne peut poser un problème. Elle peut poser un problème, surtout quand elle est mal gérée, cette hétérogénéité. Si vous voulez, un pays comme la France, chacun de nos pays est hétérogène. Les États-Unis sont hétérogènes. Vous n'avez pas les mêmes taux de chômage, vous n'avez pas les mêmes taux de croissance. Vous avez certes, en principe, le même système juridique à l'intérieur de chaque pays. Et encore aux États-Unis, comme vous le savez, il y a des différences d'un État à l'autre, y compris dans le domaine fiscal. Mais le débat, c'est à partir de quand l'hétérogénéité finit par poser problème, rend la question difficilement tenable et soutenable, hétérogénéité dans les performances en matière de finances publiques, hétérogénéité dans les écarts de compétitivité. L'écart de compétitivité entre la Grèce et l'Allemagne, il a augmenté. Depuis 10 ans, il ne s'est pas réduit. Ça rejoint le point que j'évoquais tout à l'heure. Et puis je dis, ce n'est pas uniquement l'hétérogénéité ou la diversité. Est-ce que c'est bien pris en charge, et par qui c'est pris en charge? Et là, on retrouve la question, au fond du constat que on n'est pas armé, on est mal armé aujourd'hui en Europe du point de vue politique, du point de vue de la gouvernance, pour gérer cette diversité lorsqu'elle dépasse un certain seuil. On est mal armé d'abord parce que je pense que la faible mobilité des personnes à l'intérieur de l'Europe, la mobilité était faible avant 1999, elle n'a pas augmenté depuis 1999. À différence, par exemple, du fonctionnement d'autres pays qu'on connaît bien, qui sont de l'autre côté de l'Atlantique, du côté américain, même si là encore, ce n'est pas un modèle. Bon. Et puis ensuite, il y a, comme manière de gérer la diversité, il y a la question des transferts centralisés et des problèmes de gouvernance. Quand les écarts atteignent un certain niveau, est-ce qu'ils sont pris en charge du point de vue politique, du point de vue de la gouvernance, du point de vue d'un budget communautaire, et de quelle façon? Moi, je suis persuadé, et je termine là-dessus, que le fait de dire aujourd'hui, et ça c'est une réponse politique que je conteste personnellement, le fait de dire le budget communautaire ne peut pas dépasser 1% du PIB des 27, bon, ça c'est une règle qui est acceptée pratiquement par tous les pays et pas uniquement par la Grande-Bretagne, est aussi acceptée par la France, Sans penser qu'on va vers un État fédéral, parce que je pense qu'on ne va pas rapidement vers un État fédéral en Europe. Dans un pays fédéral, le budget fédéral représente entre 15 et 25% du PIB de ce pays fédéral. Regardez du côté allemand ou du côté américain. Mais entre 1% et 15 ou 20%, il y a de la marge. Et donc, moi, je suis persuadé que si on veut faire fonctionner correctement l'Europe et vivre avec nos différences, il y a des différences qu'il faut respecter, il faudra probablement accepter, et ça c'est une décision politique, de renforcer le poids du budget communautaire dans le PIB. Voilà les éléments que je voulais verser au débat. Merci de votre attention.
Merci, Christian. Parmi ces éléments de diversité, il y a bien sûr la dimension sociale. Quand on parle de l'Europe, on parle souvent, vu de l'extérieur, du modèle social européen comme quelque chose d'homogène. Or, quand on le regarde de l'intérieur, au contraire, on est frappé par les diversités, les choix au niveau de chaque nation qui sont extrêmement différents. Est-ce que vous pourriez, je crois que ça va être le thème de votre intervention, de nous dire quelle est cette diversité des modèles sociaux, en quoi ils sont compatibles ou pas? Merci.
Très bien, merci. Donc, je vais m'inscrire dans la droite ligne de ce qu'a évoqué Christian. Tout d'abord, en reprenant un peu une formule de modestie ou de précaution, en évitant à chaque fois de faire du benchmarking ou de dire qu'il y a un modèle social qui est supérieur à l'autre. Je pense que pendant des années, en particulier dans les années 80 à 90, on a eu de la part de certaines organisations internationales des recommandations comme quoi le taux de syndicalisation était mauvais en général pour les performances du marché du travail. Puis tout d'un coup, on s'est aperçu que les pays nordiques avaient des taux de syndicalisation très très importants et pourtant s'en sortaient formidablement bien. Donc à chaque fois, il faut, je pense, éviter de vouloir exporter complètement un modèle. En même temps, c'est vrai qu'il y a certaines bonnes pratiques. On peut s'inspirer de la richesse de chacun des grands modèles, que ce soit le modèle de flexi-sécurité au nord, des modèles de cogestion du côté allemand et du dialogue social. Et je pense qu'effectivement, c'est relativement urgent d'essayer de travailler sur cette diversité et d'avoir un tout petit peu d'uniformisation. Alors, je vais développer trois points au cours de cette intervention en 7 minutes. Premièrement, de dire... Oui, effectivement, c'est relativement urgent d'avoir des points de convergence. Où est-ce qu'on trace la limite de l'hétérogénéité? C'est un point important. Deuxième point, c'est dans cette urgence, essayons de trouver des compromis qui ne soient pas des compromis vers le bas, d'accord, de déflation ou de baisse des coûts, mais essayons de trouver des modèles d'innovation et une façon de combiner performance économique et performance sociale. Et on sait qu'on peut y arriver à le faire. Et troisième point, c'est, une fois qu'on a dit tout ça, comment est-ce que vous le mettez en pratique? Quelle est l'économie politique des réformes des modèles sociaux? Et ça, c'est un point relativement important, parce qu'on a eu, depuis maintenant, ça doit faire 50 années qu'on a des réflexions sur les diversités des modèles sociaux et des préconisations qui, en général, restent à chaque fois lettre morte. Donc, sur le premier point, sur la nécessité d'avoir quand même un minimum de convergence, je pense que Christian l'a souligné, c'était au cœur de la réflexion de la zone européenne. L'Union européenne n'est pas une zone monétaire optimale. Lorsque vous perdez l'ajustement du taux de change, il faut nécessairement avoir d'autres types de mécanismes d'ajustement lorsque vous avez des chocs. Les deux grands mécanismes d'ajustement, c'est un, la mobilité des travailleurs, qui est très faible en Europe par rapport à l'Union, par rapport aux États-Unis. Et l'une des raisons de cette faiblesse, c'est justement que nous n'avons pas eu encore de réflexion commune sur un modèle social minimum tel que une assurance chômage européenne, une portabilité des droits. Donc l'assurance sur de la personne au cours de sa mobilité entre les différents pays européens est un point essentiel. Deuxième point, qui est celui dans une zone monétaire optimale, c'est d'avoir aussi des mécanismes de redistribution. Et en particulier, lorsque vous avez des pays qui sont vraiment au bord de la faillite, il est impossible pour eux de continuer à financer leur système de protection sociale. Or, la protection sociale est souvent nécessaire dans des systèmes de crise pour pouvoir continuer à former les travailleurs, pour être sûr que lorsqu'ils sont au chômage, ils ne perdent pas tout leur capital humain, mais puissent être accompagnés dans leur recherche d'emploi. Dans ces cas-là, il faut des mécanismes redistributifs, des pays qui sont dans des situations de boom, tels que l'Allemagne ou des pays nordiques, pour qu'ils puissent redistribuer vers les pays du Sud. Donc là-dessus, on doit avoir une réflexion, et ne avoir une trop grande diversité là-dessus est, à mon sens, un handicap. Alors le deuxième point, c'est très bien, essayons de réfléchir sur des éléments de convergence commun, mais lesquels? C'est vrai que vous avez souligné, il y a pour, à l'heure actuelle, deux grands modèles qui sont souvent cités en exemple, soit le modèle de la flexi-sécurité, où on assure surtout la personne et non pas le poste. Donc vous avez une très faible sécurisation de l'emploi avec des coûts de licenciement relativement faibles, mais en revanche, vous avez une très forte sécurisation du parcours professionnel des travailleurs avec des allocations chômage généreuses et un accompagnement très renforcé. Donc ça, c'est les modèles nordiques, et c'est ce qu'on... C'est sûr que dans les économies d'innovation, avoir de la flexibilité et avoir aussi une capacité à chaque fois à se reformer sur de nouveaux emplois, c'est essentiel. Et c'est ce qu'essayent de faire d'une certaine façon les réformes de Monti ou Espagnol. En tout cas, je ne sais pas si les réformes vont jusque-là, mais le modèle est pris en exemple dans ce point de vue. Deuxième grand pôle d'attraction, c'est le modèle dialogue social allemand. Et... encore une fois, ce qui est très étonnant, c'est que ce modèle de co-gestion, d'ailleurs, qui est revenu à la mode avec le rapport Gallois, en 2007, était complètement décrié en Allemagne. Hein, c'est-à-dire, les premières réflexions de Schröder étaient d'arrêter avec cette présence des salariés au conseil de surveillance. Vous savez que dans pratiquement 50% des salariés sont représentés, enfin, les comités de surveillance d'entreprise sont représentés à 50% par des salariés et qui peuvent même élire le directeur des ressources humaines. Donc, c'est un vrai pouvoir. Alors, il me semble qu'il y a vraiment du bon dans ces nominels et j'espère qu'on n'ira pas dans une réflexion vers uniquement une baisse du coût du travail, où on se dira que pour pouvoir vraiment absorber les chocs, il est nécessaire de se débarrasser de la protection sociale et d'avoir une baisse des coûts très importante. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Hein. L'Espagne et l'Italie sont en train de baisser énormément le coût du travail. Il faudrait avoir une réflexion un tout petit peu plus ambitieuse vers le haut pour pouvoir s'en sortir. Et une réflexion ambitieuse, c'est comment développer l'innovation et avoir des modèles sociaux qui permettent de développer l'innovation. Et j'insisterai sur deux points sur le cadre de la France. La France peut s'en sortir avec en ayant deux leviers très importants. Tout d'abord, dans l'innovation, vous avez besoin d'avoir des organisations d'entreprises qui sont beaucoup plus décentralisées, avec une organisation horizontale. On réfléchit toujours en termes d'innovation en France, en termes de grandes entreprises qui vont investir dans le high-tech. Mais l'innovation, c'est aussi être capable, pour des petites entreprises, de s'adapter en flux continu au changement de l'environnement, d'être capable de changer leur management, leur méthode de management, d'avoir aussi un service après-vente à chaque fois beaucoup plus serré. Et ça... ça nécessite à chaque fois des entreprises qui sont organisées d'un point de vue horizontal et ça nécessite de la coopération entre les managers et les employés. Malheureusement, la France souffre d'un très très grand déficit sur ce point de vue-là. Je rappelle que la France, à chaque fois, caracole en tête des relations les plus conflictuelles du travail. Deuxième point, si vous voulez changer aussi le modèle d'innovation, il faut aussi réfléchir sur la façon dont vous changez un peu en termes de modèle social, aussi le modèle éducatif. Si la France a des modèles est très mauvaise dans l'innovation, c'est parce qu'elle a des entreprises beaucoup trop centralisées, beaucoup trop hiérarchiques. Mais si c'est le cas, c'est parce que très tôt, on n'apprend pas à nos élèves à coopérer. On a mené des grandes études comme ça internationales où on s'aperçoit que deux tiers des écoliers français passent le plus clair de leur temps à prendre des notes au tableau en silence plutôt que d'apprendre à travailler en groupe. Et en ça, on est vraiment des points singuliers par rapport à l'ensemble des autres pays. Alors, je terminerai sur la dernière grande partie en disant, très bien, une fois qu'on se dit qu'on a quand même des bonnes pratiques en termes de dialogue social, de décentralisation, de flexisécurité, comment est-ce qu'on le met en place? Et là, je pense qu'on n'a pas suffisamment réfléchi jusqu'à maintenant à l'économie politique des réformes. J'aimerais souligner trois points. Premièrement, changer de modèle social soulève toujours certaines réticences si vous n'avez pas un partage des valeurs communes. Je vous donne juste un exemple. Lorsque vous regardez la sensibilité des Italiens à la famille, elle est beaucoup plus importante. Effectivement, il y a beaucoup moins de mobilité que dans les pays du Nord, mais en même temps, ils sont peut-être plus heureux parfois à rester dans un pays local et à pouvoir bénéficier de relations sociales extrêmement plus denses. Donc comment vous leur expliquez que du jour au lendemain, il faut avoir une flexicurité et pouvoir avoir une très très forte mobilité? Autre exemple, qui est celui de la flexisécurité en tant qu'assurance, mais aussi d'obligation. Bien sûr, les pays nordiques arrivent à bien assurer les salariés, mais vous avez quand même des systèmes de droits et d'obligations, et ils le font parce qu'ils ont l'impression que tous coopèrent et tous participent. Lorsque vous êtes dans des sociétés du Sud où on a plus l'impression que les gens ou vos camarades ne respectent pas les règles, c'est beaucoup plus dur de pouvoir changer de modèle social. Enfin, je dirais un dernier point, c'est que lorsqu'on réfléchit sur les réformes de modèles sociaux, il y a aussi un peu un calendrier politique, c'est pour pouvoir réformer le marché du travail ou pour réfléchir à une réforme du marché du travail, il faut aussi réfléchir à la réforme du marché des biens. Les deux vont de pair et parfois le levier du marché du bien est quand même un peu plus rapide à faire. En conclusion, je pense qu'il y a une... On peut s'inspirer, il n'y a pas de remède miracle, c'est clair. En revanche, on peut s'inspirer de bonnes pratiques, mais ces bonnes pratiques, c'est celles qui portent vers le haut et c'est vers des modèles sociaux qui proposent de combiner des performances économiques et des performances sociales.
Pour rebondir sur les bonnes pratiques, quelles seraient les bonnes pratiques en France qui pourraient inspirer les Allemands aujourd'hui ? Est-ce que vous pourriez citer un ou deux exemples ? Est-ce que, par exemple, le SMIC ou la politique familiale sont des choses dont les Allemands auraient avantage à s'inspirer ?
Mais je vous... Alors, il y a première, une bonne pratique, mais c'est un peu différent. C'est aussi problématique de natalité, bien sûr, mais aussi d'immigration. Le problème de l'Allemagne, c'est que l'Allemagne est un pays vieillissant et doit vraiment réfléchir sur sa façon de se redévelopper. Mais je vais rebondir sur l'exemple du SMIC. Vous avez raison, l'Allemagne donc, n'a pas de ce qu'on appelle de salaire minimum statutaire légal. D'accord ? Le salaire minimum est à la limite négocié au niveau syndical, entre syndicats ou au niveau des branches. C'est exactement la même chose dans les pays nordiques. Les pays nordiques n'ont pas de salaire minimum légal. Et d'ailleurs, c'était l'une des grandes incompréhensions au moment de la réflexion sur le traité européen, sur la constitution européenne, parce que beaucoup en France, à gauche, n'arrêtaient pas de dire « Ah, mais il faut absolument mettre le salaire minimum dans cette constitution européenne. » Mais les Suédois disaient « Mais non, absolument pas. Les salaires minimums doivent être négociés. C'est des prérogatives des syndicats. Et si l'État intervient, il court-circuite le dialogue social. Et dans ce cas-là, il empêche justement un vrai modèle social de se construire et les managers, les employés de se rencontrer et de s'asseoir autour d'une table. » Ce qui se passe à l'heure actuelle en Allemagne, c'est qu'effectivement, parce que les syndicats deviennent de plus en plus faibles, vous avez une demande de plus en plus pressante que l'État intervienne et fixe un salaire minimum. Est-ce que c'est une bonne pratique ? Moi, je n'aurais pas de réponse absolue là-dessus. Ce que je constate, c'est que, effectivement, quand les syndicats sont trop faibles, ou lorsque vous avez un peu une perte de vitesse sur les pouvoirs de négociation, que l'État intervienne est souvent l'une des solutions. Maintenant, il faut aussi faire très très attention à ce que l'État ne soit pas l'entité qui règle absolument tout si vous voulez développer des corps intermédiaires. Donc, le syndicalisme nordique est si puissant, c'est parce que, justement, vous avez une reconnaissance de la part des employés et des employeurs de ces syndicats et ils peuvent négocier sur l'ensemble des services, que ce soit la formation professionnelle, que ce soit l'assurance chômage et autres.
Merci. Donc, l'hétérogénéité, il faut faire avec, si j'ose dire. Alors, Patrick Artus, comment, je crois que vous pensez que si on ne sait pas la gérer suffisamment finement, cette hétérogénéité ou la diversité telle qu'elle existe, à la fois dans les choix, dans les préférences des sociétés, mais également dans les résultats, les performances économiques, cette hétérogénéité pourrait être mortelle pour l'euro, non ?
Oui. Oui, je vais continuer. Je crois que ce que je voudrais dire suit assez bien ce qu'ont dit Christian et Yann. D'abord, revenir sur l'idée que, contrairement effectivement à ce que beaucoup attendaient, et c'est ce que Christian a dit tout à l'heure, depuis la création de l'euro, alors on parle plutôt de l'euro, on a dit diversité des modèles européens, les pays qui ont le libre choix de leur taux de change et de leur politique monétaire sont quand même dans des contraintes beaucoup plus souples. Hein. Et donc, je vais plutôt parler de l'euro que de l'Europe. Si les Anglais décident de ne plus avoir de congés payés, la livre sterling s'appréciera. Hein. Donc, on n'a pas du tout la même situation dès qu'on sort de la zone euro. Donc, quand je dis Europe, c'est plutôt zone euro. Et l'hétérogénéité de la zone euro a considérablement cru, en réalité, depuis la création de l'euro. L'hétérogénéité productive... Les pays se sont, on en parlait tout à l'heure en parlant de politique monétaire et de la BCE, les pays se sont diversifiés différemment, se sont spécialisés différemment. L'industrie a considérablement maigri en France, en Espagne, en Grèce, au Portugal, a grossi en Allemagne, en Irlande, en Autriche, en Finlande. La France, l'Espagne, etc. sont devenues des économies de services non échangés. Évidemment, ceci a des conséquences, et je vais y revenir dans une minute, dramatiques. Spectaculaire, par exemple, sur la capacité des pays qui sont spécialisés dans les services à équilibrer leur compte extérieur. Si vous avez peu d'industrie, vous avez une énorme difficulté à avoir une balance extérieure équilibrée. Il y a des hétérogénéités structurelles. Alors, Yann en parlait, le marché du travail ne marche absolument pas de la même manière dans les pays européens. J'y reviens pas, c'était dit de façon très claire. La France a un marché du travail extraordinairement différent des autres. Regardez une situation qui est très, très, très spectaculaire en France. Le salaire ne répond absolument pas au chômage, hein, ce qui est très, très différent de ce qu'on voit dans les autres pays européens, d'ailleurs en dehors d'Europe. Mais ce n'est pas uniquement le marché du travail. La façon dont on se finance est très différente entre les pays. En Espagne, tous les crédits ont des taux d'intérêt révisés tous les 3 mois. En Allemagne, on prend un crédit et on garde le même taux d'intérêt pendant 20 ans. Ça crée des difficultés extraordinaires pour faire une politique monétaire commune. Il y a des différences fiscales. Quand vous regardez la façon dont on finance, c'est pas tellement le poids des impôts, c'est la structure des impôts. Les cotisations sociales, par exemple, suivant les pays, représentent de 6 à 16% du produit intérieur brut. Hein. La démographie, alors Yann en parlait, on a des pays vieillissants, des pays moins vieillissants, comme la France. C'est très spectaculaire quand on parle à nos collègues allemands de voir à quel point le vieillissement démographique a une influence énorme sur leur choix de politique économique. Hein, un pays qui se sait vieillissant veut épargner, veut accumuler des actifs, ne veut pas dépenser, ne veut pas contribuer à soutenir ses voisins. Et ça a des conséquences très, très profondes sur les choix d'économie politique de l'Allemagne. Politique énergétique, on n'a pas du tout les mêmes politiques énergétiques. Les Allemands viennent de décider de passer au charbon. Hein, ce qui est un truc assez bizarre, mais qui est vraiment le cas, hein, puisque la sortie du nucléaire en Allemagne se transforme en passage du nucléaire vers le charbon. Donc l'Allemagne est un pays qui manifeste une forte préférence pour le CO2. Nous avons sans doute des préférences assez différentes. Et puis, il y a au total, on pourrait parler des relations entre les grands groupes et les PME, hein, qui joue un rôle massif dans la bonne santé de pays comme la Suède, alors c'est pas la zone euro, comme l'Allemagne, comme les Pays-Bas, cette connivence, hein, entre les grands groupes et les PME qui sont autour d'elles. Donc voilà, tout est différent, et quand vous regardez les chiffres, les évolutions, tout est devenu plus différent. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Comment il faut traiter ce problème et comment il faut réagir à ce problème ? Moi, je propose de poser deux questions. Et peut-être que ces deux questions amèneraient à traiter le problème d'une façon un peu différente de celle dont on sent que l'Union européenne va le traiter. La première question, c'est qu'est-ce qui est vraiment incompatible avec l'échange fixe dans cette hétérogénéité ? Il faut faire le tri, quoi. S'il y a des choses qui sont compatibles avec l'échange fixe, voilà. Et alors, par exemple, les fonctionnements très différents du marché du travail, ça me paraît assez incompatible avec l'échange fixe. Si on a un choc économique, que dans un pays les salaires s'ajustent et dans l'autre pays les salaires ne s'ajustent pas, ça va rendre le maintien d'échange fixe très, très, très compliqué. La structure productive, évidemment, une économie de services, une économie industrielle, la première va avoir un déficit permanent vis-à-vis de la seconde. Et en change fixe, c'est très, très compliqué parce qu'on va accumuler une dette infinie et ceci finira dans la crise de la zone euro telle qu'on l'a vue. La fiscalité, peut-être pas tous les morceaux de la fiscalité, hein, mais on voit bien ce dont traitait le rapport Gallois. Le poids des charges sociales directes sur les salaires, c'est sans doute assez difficilement compatible avec l'échange fixe. Et puis il faut se dire, il y a peut-être des choses qui sont parfaitement compatibles avec l'échange fixe. L'âge de départ à la retraite, probablement. Enfin, on ne voit pas bien pourquoi on devrait, parce qu'on a le même taux de change, avoir le même âge de départ à la retraite. Les choix énergétiques, ouais, peut-être qu'ils peuvent être différents. Donc, je crois qu'il faut avoir cette réflexion. Si on peut regarder les États-Unis, hein, je crois que l'un et l'autre vous le proposiez. Qu'est-ce qui est très différent aux États-Unis et dans la zone euro ? La mobilité du travail, beaucoup plus forte, hein, ce qui effectivement permet de réharmoniser les régions. Le système de financement. Un crédit immobilier aux États-Unis, en Californie et à New York, c'est le même animal. Hein, donc il y a cette espèce d'unicité de la façon dont on finance l'économie. Évidemment, le fédéralisme, hein, 70% des impôts sont des impôts fédéraux, pas des impôts locaux. Vous savez qu'il y a des travaux de Barry Eichengreen qui montrent qu'aux États-Unis, si un État perd 1 dollar de revenus, les transferts fédéraux lui ramènent 50 cents. En Europe, c'est 1 cent. Hein, donc, première question, mais on en reparlera dans la discussion. Hein, il faudrait vraiment se faire ce travail intellectuel de dire qu'est-ce qu'on peut garder comme hétérogénéité compatible avec l'échange fixe et qu'est-ce qu'on peut pas garder. Alors, Il y en a une qui va être très compliquée, hein, c'est l'hétérogénéité des structures productives. Avoir des économies de services et des économies industrielles dans le même système de change sans fédéralisme, vous voyez que ça pose un problème majeur, parce que comment vous obtenez le rééquilibrage des comptes extérieurs des pays de services ? Deuxième question qu'il faut poser, si on veut traiter ce problème, c'est qu'est-ce qui est... Il ne faut pas partir de l'idée, à nouveau, que l'homogénéité est la solution. Et l'objectif final. La question est, qu'est-ce qui est non coopératif ? La question, ce n'est pas de bannir l'hétérogénéité, c'est de bannir le non coopératif. Et les politiques coopératives ne sont pas forcément homogènes. Prenez un exemple très bête. Dans des pays périphériques de la zone euro qui ont des besoins de construction d'infrastructures publiques, il faut accepter des investissements publics dans ces infrastructures de niveau beaucoup plus élevé que dans les pays qui ont déjà des infrastructures très développées. Hein. Et donc on voit bien que chaque fois qu'on va réfléchir à ce qui est non coopératif, on ne va pas forcément trouver qu'il faut avoir les mêmes règles ou les mêmes façons de fonctionner. Alors qu'est-ce qui est hautement non coopératif ? Alors Yann m'a volé une partie de ça. Évidemment, la concurrence par le coût du travail est hautement non coopérative. On a un débat assez violent entre économistes français et allemands sur la politique allemande des années 2000, hein, qui a consisté quand même à baisser assez fortement le coût du travail en Allemagne, à la fois en baissant les charges sociales et en baissant les salaires dans ce nombre de secteurs. Les Allemands disent non, on a fait une politique qui était bonne parce que c'est une politique de l'offre sympathique. Les Français disent, mais attendez, c'est une politique qui ne marche que parce que vous avez gagné de la compétitivité vis-à-vis des autres Européens. Si tout le monde l'avait fait, vous n'auriez rien gagné. Donc voilà. Un point ici qui me paraît important, et je vais terminer, est de dire, je n'ai pas l'impression que la réflexion de l'Union européenne part de cette idée que ce qui est important, c'est de bannir le non-coopératif. On a l'impression que la réflexion reste une réflexion en disant, il faut homogénéiser à tout prix. Deux exemples pour terminer. Est-ce qu'on a besoin de la règle d'or ? C'est-à-dire, est-ce qu'on a besoin d'avoir le même déficit public structurel dans tous les pays ? La réponse est absolument non. C'est-à-dire qu'on a des besoins de financement, d'éducation très différents. Il y a 70% des Portugais qui n'ont pas dépassé l'école primaire. Il y a 15% des Allemands. On va quand même dépenser un peu plus d'argent dans l'éducation au Portugal qu'en Allemagne. Donc bien sûr, la règle d'or, c'est une très mauvaise règle budgétaire parce qu'elle met l'homogénéité en avant et pas la coopération. Regardez les impôts. On harmonise la TVA. Il y a des règles très strictes sur les taux de TVA. Ce qui sert strictement à rien. On ne peut pas se concurrencer par la TVA, vraiment. Enfin, dire, on ne peut pas décider d'aller manger à Bruxelles ou à Berlin, parce que la TVA est plus basse. Quoi. Et par contre, on n'harmonise absolument pas les charges sociales des entreprises ou les taux d'impôt sur les sociétés des entreprises, qui sont l'objet d'une très forte concurrence fiscale entre les pays. Donc voilà, donc conclusion, et j'arrête là. Un, faisons cet effort intellectuel de faire la liste de ce qui est insupportable en change fixe. Et deux, faisons cet effort intellectuel de ne pas croire que le coopératif veut dire forcément l'harmoniser.
Oui. Je voulais juste rebondir. Cette analyse qui est un peu effrayante et fascinante à la fois, elle avait quand même été faite par les eurosceptiques il y a une quinzaine d'années.
La question est... Enfin, non, pas par les eurosceptiques. Je crois qu'il y avait quand même un assez grand consensus des économistes pour dire qu'on ne pouvait pas avoir une politique monétaire commune sans coordonner beaucoup plus de choses. Et à nouveau, pas sans homogénéiser, sans coordonner beaucoup plus de choses dans les politiques fiscales, dans la façon dont marchent les marchés du travail, dans les relations sociales, hein, dans tout ce que Yann vient de nous dire. Je crois que c'était quand même très consensuel. Il n'y a qu'un certain nombre de technocrates européens qui malheureusement avaient les manettes, qui croyaient ce que a dit Christian au début, qui ont confondu convergence nominale et convergence réelle, finalement. Hein. Mais ce n'était pas du tout dans la profession d'économiste, il n'y avait pas du tout cette confusion. Hein, à part chez quelques cerveaux égarés qui se reconnaîtront dans la salle. Mais sinon, je crois pas. Je crois simplement... Et puis, il y a les hommes politiques qui croyaient que forcément, on allait aller assez vite vers la coordination, hein, ce qui se révèle pas du tout être le cas. Mais j'ai pas l'impression qu'il y avait une ignorance du problème. Il y avait une connaissance assez large du problème qui était qu'on ne pourrait pas rester dans cette situation qui est celle d'aujourd'hui où on ne coordonne que la monnaie, finalement.
Oui, Christian. Oui.
Un mot là-dessus, parce que dans ceux qui étaient contre l'euro, et c'était tout à fait leur droit, bien sûr, il y avait des bons arguments qui étaient avancés par les opposants. Mais il y avait aussi, par exemple, du côté de certains économistes américains, que je ne vais pas citer, ou Milton Friedman ou quelques autres, il y avait quand même et un certain nombre de responsables américains, non économistes, il y avait quand même la perception du fait que la réussite de l'euro aurait des conséquences pour les États-Unis. La réussite de l'euro aurait à terme des conséquences.
Négative, négative.
Ben oui, parce que souvenez-vous de Connolly, secrétaire au Trésor de Nixon, 1971. Quand il parle du dollar, c'est un Américain, il dit le dollar, notre monnaie, votre problème, s'adressant aux Européens. Il est clair que la réussite à terme, parce que il faut quand même beaucoup de temps pour rééquilibrer un jour le système monétaire international, si on y arrive, la réussite de l'euro, si elle se confirmait, aura des conséquences pour les États-Unis, qui aujourd'hui financent 90% de leur déficit dans leur monnaie. Quand vous financez votre déficit dans la monnaie que vous créez, vous n'avez pas la même notion de contrainte extérieure que si vous financez votre déficit dans la monnaie des autres. Donc si l'euro marche, si l'euro augmente ses parts de marché sur la scène mondiale, ça aura des conséquences. Je veux dire que dans 10 ou 15 ans, si les États-Unis ont encore un déficit extérieur et un déficit budgétaire, ils le financeront aussi dans notre monnaie. Deuxième et dernière remarque, et je termine là-dessus. Moi, je pense, et je rejoins ce qu'a dit Patrick, je pense qu'on a cru que l'existence même de la monnaie unique allait susciter dans le système, je dirais de manière endogène, des forces poussant dans le sens de la coordination, comme tu l'as dit. C'est un peu la théorie de la bicyclette. C'est-à-dire que la théorie de la bicyclette sur laquelle repose l'intégration européenne depuis 1950, ça consiste à dire que dès qu'on commence à ralentir de pédaler, on se casse la figure. Et donc, pour éviter de se casser la figure, il faut au moins continuer à pédaler, voire pédaler de plus en plus vite. Et donc, je pense qu'il y avait peut-être une certaine naïveté à laquelle je veux bien m'associer, parce que peut-être que moi, j'ai fait aussi partie des gens qui ont cru que l'existence de l'euro allait pousser à plus de coordination. Et là, c'est un problème de réponse politique, ce n'est pas un problème technique. Et pour des tas de raisons, peut-être la crise, peut-être d'autres choses, peut-être nos divergences. Regardez sur l'énergie, on a annoncé en décembre 2008, on annonce des objectifs relativement ambitieux en matière de politique européenne de l'énergie. Aujourd'hui, fin 2012, on est nulle part.
Patrick, oui.
Oui, un tout petit mot qui est important, je crois, et j'ai oublié de dire. Il y a eu une énorme réflexion théorico-quantitative au moment de la mise en place de l'euro. Pour savoir si c'était, si la zone euro ou si d'autres pays plus loin à l'Est étaient une zone monétaire optimale, hein, au sens de Robert Mundell. Simplement, ces travaux partaient étaient extraordinairement mal fondés, puisqu'ils partaient de l'idée que le problème, c'était les chocs asymétriques. C'est-à-dire que les pays seraient touchés par des chocs différents. Et qu'effectivement, si les pays sont touchés par des chocs asymétriques, et c'était ce que racontait Mundell dans les années 60, il aurait très difficile d'avoir la même politique monétaire. Et donc, on a des travaux empiriques, des gens qui ont regardé si la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne avaient des chocs asymétriques. Et la réponse est non. Ces pays ont à peu près les mêmes cycles. Quoi. Je veux dire, si vous regardez les cycles, ils se ressemblent énormément. Alors après, on disait, mais quand on va plus loin à l'Est, on va chercher l'Ukraine, etc. Là, c'est plus les mêmes cycles. Mais il n'y a pas de problème à l'intérieur de ce bloc d'Europe de l'Ouest où les fluctuations cycliques sont très corrélées. Le problème, c'est que, et c'est, je crois, ce qu'on a tous dit, tous les trois, et puis je pense que les suivants vont dire la même chose, le problème, c'est que ce n'est pas du tout les chocs asymétriques, le problème. C'est les structures asymétriques. Hein. Prenez deux pays qui ont des cycles complètement corrélés. S'il y en a un qui a 3% de croissance par an et un qui a 1% de croissance par an, même si leurs chocs sont complètement corrélés, ils ne peuvent pas avoir la même monnaie. Et on ne s'est pas du tout intéressé aux structures asymétriques jusqu'à une époque récente, hein, à cause de Mundell, parce qu'il y avait peut-être tout ce poids mis sur les chocs. Quoi. Et ce n'est pas les chocs le problème.
Merci. Maintenant, je passe la parole à Stéphanie Peck, qui va représenter le monde des banques. Actuellement, il y a la planche de salut, c'est semble-t-il l'union bancaire. Hein, on ne parle que de ça, ça va résoudre une grande partie des problèmes. Que pensez-vous de cette diversité des systèmes bancaires nationaux ?
Alors avant de vous répondre, je vais redire très mal ce qui a été très bien dit avant, mais je vais le dire peut-être d'une autre façon. D'abord qu'effectivement on parle de l'Europe, en fait il faut parler des Europes, parce qu'il y a des zones européennes, il y a effectivement l'euro, il y a l'union monétaire, enfin voilà, donc on est déjà, quand on parle de l'Europe, face à une diversité qu'on a du mal à appréhender. Ensuite sur la monnaie, moi je partage bien évidemment ce qui a été dit hein, sur la création de l'euro, sur la théorie de la bicyclette ou des chocs asymétriques. Je l'exprimerai de façon différente en faisant un tout petit peu d'histoire. Fondamentalement dans l'histoire, et quand on remonte même au Moyen-Âge, hein, le pouvoir de battre monnaie, c'est-à-dire d'émettre de la monnaie, est un pouvoir d'abord politique. C'est le primat du politique que de battre la monnaie. Et effectivement, on a fait une union monétaire sans finalement trop se préoccuper des questions de gouvernance politique. Et donc finalement, la bicyclette n'a pas avancé exactement comme elle aurait dû avancer, peut-être pas au bon rythme. Et on voit qu'elle vacille un petit peu. Autre point, avant de répondre à la question, et je vais venir sur les banques, il ne faut pas oublier non plus que cette Europe, elle s'est fait quand même à une allure vertigineuse. Si on regarde là aussi, si on revient juste quelques dizaines, même allez, presque 200 ans en arrière, il y a des pays qui n'étaient même pas constitués il y a 150 ans. Et c'est sur ces pays, alors je pense à l'Allemagne, je pense à l'Italie, qui étaient juste en train de se constituer. Et voilà, et donc cette diversité culturelle... de toute façon, c'est une réalité. Enfin, on n'a pas le. On peut se dire c'est bien ou c'est mal, la diversité européenne. Est-ce que c'est une chance? Est-ce que c'est un fardeau? Je ne sais même pas si c'est cette question-là qu'il faut se poser. C'est. Voilà. C'est. Et de toute façon, je pense que c'est indétricotable. Et en tout cas, j'espère que c'est indétricotable. Alors, pour répondre sur l'Europe, sur les banques, bah, finalement, le système bancaire européen, il échappe pas à tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire qu'il revêt une très très grande diversité. Même si on prend des pays qui sont extrêmement proches de nous, que ce soit l'Allemagne, que ce soit l'Italie, l'Espagne, la France, l'Angleterre, on a des fondamentaux de l'industrie bancaire européenne qui sont très différents. Un poids, par exemple, des coopératives en France, qui est tout à fait spectaculaire, un poids des revenus de l'industrie bancaire dans le PIB qui est très très différent là aussi d'un pays à l'autre. On comprend pourquoi l'Angleterre, alors certes qui n'est pas dans la zone euro mais qui est quand même un peu dans l'Europe, hein, faut pas l'oublier, on comprend pourquoi l'Angleterre, compte tenu du poids de l'industrie financière, veut imposer un certain nombre de modèles, notamment dans la fameuse question de la séparation de la banque de financement et d'investissement. On comprend pourquoi sur la taxe sur les transactions financières, je ne me prononcerai pas pour savoir si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, mais en tout cas, on comprend pourquoi l'Angleterre n'y est pas favorable. Donc oui, on est face à une très grande diversité des modèles. On est face à une très grande différence de comportement et de résistance des banques européennes pendant la crise depuis 2008. Des banques françaises qui ont plutôt bien résisté, des banques dans d'autres pays qui ont coûté beaucoup plus cher à leurs États et à leurs contribuables, et certaines d'ailleurs qui n'ont toujours pas trouvé leur point d'équilibre. Là, il y a eu pas mal d'articles hein, qui sont sortis sur les banques espagnoles, sur le coût des provisions. Ce qui est très perturbant d'ailleurs dans le cas d'Espagne, c'est que quand on voit des reportages à la télévision, on voit ces villes entières dans lesquelles on a des chantiers qui sont arrêtés avec des espèces de villes fantômes, et on se dit le bilan des banques espagnoles est truffé de ces crédits faits aux promoteurs immobiliers, et comment rembourseront-ils? Mais en fait le vrai choc sur l'endettement, enfin sur la crise immobilière espagnole et son impact sur les banques, il vient d'un taux de chômage de 25% qui fait que les ménages qui se sont endettés aujourd'hui ne peuvent pas payer, ne peuvent pas rembourser. Et donc là, je crois que sur le troisième trimestre, on en est à 80 milliards de provisions qui ont été passées, et on sait que ça n'est probablement pas terminé. Voilà. Et donc cette réalité du système bancaire européen, elle est là aussi. Alors, on nous parle d'une supervision unique, hein, comme étant peut-être la, j'allais pas dire la panacée universelle pour permettre aux banques de ne plus être le fardeau qu'elles sont pour leurs États, puisque c'est un peu comme ça quand même qu'on perçoit les banques en tout cas en France. Alors, il y a eu une grande question hein, sur le nombre de banques qui devaient être supervisées par le superviseur unique. On parle de 6 000, donc là, on a à peu près fait le tour de la question quand on parle des 6 000. Ça aussi, c'est une réalité de la diversité européenne en matière de banques. Je pense qu'en France, alors Patrick, tu seras certainement beaucoup plus précis que moi, mais je crois qu'on doit avoir 150 ou 200 banques en France, quelque chose comme ça. Il y en a 2 000 en Allemagne. Alors peut-être... Mais c'est à peu près de cet ordre de grandeur-là. On voit bien que dans des pays qui ont une population à peu près comparable, hein, on voit bien que déjà pour les autorités bancaires nationales, que ce soit l'allemande ou la française, superviser 200 établissements ou en superviser 2 000, on ne parle pas du tout de la même chose. Donc en superviser 6 000 d'un seul coup, je ne dis pas qu'il faut aller vers davantage de supervision bancaire, je dis simplement qu'on ne peut... Alors, bien évidemment, il y a des décisions politiques qu'il faut prendre à un moment donné, mais il faut voir comment on va le faire, parce que bien évidemment, quand on parle de 2 000 banques, on ne parle pas de même taille de banque, et on ne parle pas effectivement des mêmes sujets à superviser. Là aussi, quand on parle de supervision bancaire, de quelles activités parle-t-on ? De quel type de banque parle-t-on ? Tous ces sujets-là ne sont pas du tout traités. Et pour qu'il y ait supervision, superviseur unique, il faut bien évidemment qu'il y ait quelque chose qui soit absolument indispensable, c'est qu'il y ait une réglementation qui s'applique de manière unique partout. Or, depuis la mise en place des différents ratios, notamment autour de la solvabilité, alors on peut remonter très très loin, hein, avec l'ancêtre qui est le ratio McDonough, puis Bâle 1, Bâle 2, Bâle 2,5, on arrive sur Bâle 3, on sait très bien qu'il y a des pays entiers qui ne sont... Enfin, les États-Unis, alors vous me direz, c'est pas dans la zone euro, mais même dans la zone euro, l'application des règles de Bâle n'a pas été faite de manière complètement homogène. Les règles de Bâle 3 qui doivent se mettre en place maintenant extrêmement rapidement, notamment sur leur volet de règles de liquidité, les règles de liquidité, les formules, elles sont toujours pas construites. Hein, on les attend toujours. Donc c'est sûr que ça va être con. Voilà. Donc finalement, la bonne façon de répondre à cette question, c'est aussi d'aller dans le sens de ce qui a été dit, c'est-à-dire que il faut tendre vers davantage de coordination, peut-être définir ce qui est absolument non négociable en matière de supervision unique, mais viser l'homogénéité immédiate tout de suite, compte tenu de la diversité du paysage, me paraît être voué à l'échec. En tout cas, ça serait un vœu pieux, même si c'est probablement, il en faut davantage.
Merci. Cette divergence que tout le monde constate et dont on s'aperçoit aujourd'hui qu'elle est beaucoup plus profonde finalement que ce qu'on pouvait imaginer il y a 15 ans, d'un œil de politique, est-ce que les politiques ont un moyen pour lutter contre cette hétérogénéité ? Est-ce que c'est vraiment une tare ? Et comment y remédier ? Est-ce que c'est par une coopération entre États ou au niveau, au contraire, de chaque... nation de s'adapter.
J'ai envie de dire déjà que, à travers le croquis magnifiquement bien fait, l'animation qui a précédé notre débat, déjà beaucoup était dit. Et par la suite, cela a été dit de la même manière, mais de façon encore plus précise. La situation est la suivante. Garibaldi disait au moment de l'édification de l'Italie, nous avons fait les Italiens, nous avons fait l'Italie, maintenant il va falloir faire les Italiens. Je serais tenté de dire qu'aujourd'hui, nous avons fait l'Europe, il faut faire les Européens, et qu'une des étapes de cela, c'est que nous avons fait l'euro, il va falloir maintenant une économie européenne. La situation est évoquée à travers différentes prises de vue. la problématique sociale, la problématique bancaire, la question des déséquilibres structurels, qu'ils soient liés à l'appareil de production ou aux grands agrégats. Christian de Boissieu est revenu sur la problématique du taux d'intérêt nominal et du taux d'intérêt réel, d'ailleurs à laquelle répond en partie la problématique de la supervision, en ce sens où elle tente d'alerter sur le niveau de crédit, en rapport aussi, et c'est de cela dont je veux vous parler, avec aussi en rapport avec ce que peut être une balance des paiements, qui a été aussi à l'origine un déclencheur de la crise que nous traversons. Et en ce sens, la crise des subprimes n'a pas provoqué la crise de l'euro, elle l'a juste révélée. Et nous avons, pendant des années, quelque part, fait un petit peu semblant de ne pas voir. Mais je vous donne, dans cet objectif-là, parce que je pense que c'est peut-être l'objectif est que prise de parole est une utilité aussi dans l'analyse du point de départ auquel nous nous situons, au-delà de tout ce qui a déjà été dit. Du point de vue de la question de la balance des paiements, qui est je pense, très importante dans la situation que nous vivons. Entre 2007 et 2013, en cumulé, la France, l'Italie, l'Espagne, entre 2005 et 2012, excusez-moi, ont perdu 15% de parts de marché au sein de l'Union européenne. À la même période, l'Allemagne, elle, a gagné 15% de parts de marché. Aujourd'hui, on peut se dire, tant mieux, ils ont été plus compétitifs, ils ont été plus efficaces, ils ont été, etc. Mais là se pose la question véritablement du modèle économique européen que l'on souhaite. Et la manière dont la diversification, la spécialisation est pilotée à minima. Politiquement. Et c'est là où le bât blesse. Lorsque vous allez aujourd'hui faire un tour à la Commission européenne, au Parlement européen, à la Banque européenne d'investissement, la véritable crise économique de l'Union européenne, elle est avant tout une crise de leadership. Et qu'il est très difficile aujourd'hui de donner un cap. Parce que ces problématiques de divergence des économies, elles sont évidemment liées à des égoïsmes. Mais lorsqu'on n'a pas d'avenir collectif, eh bien, chacun regarde midi à sa porte. Et ce que l'on a comme situation avec des stratégies qui, pour le coup, sont non coopératives et divergentes. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, ce qui m'intéresse beaucoup sur ce qui a pu être dit par Patrick Artus, sur ce qui est... non conciliable avec un taux de change fixe, c'est peut-être moins des points pris les uns séparés des autres, mais plutôt sur des couples de relations. Taux monétaire réel et nominal, balance des paiements et le rapport entre les deux. La question du coût du travail et sa convergence au sein de l'Union européenne n'est pas un problème en soi. Il est un problème à partir du moment où on a une divergence sur la productivité ou du moins un rythme différent et qui est déphasé par rapport à cette convergence des coûts du travail. Et lorsque nous avons, et je reviens là à l'Allemagne, des politiques non coopératives, eh bien on se retrouve dans la situation suivante où la Commission européenne elle-même, en juillet dernier, alerte sur le déséquilibre structurel causé par le fait que nous ayons un excédent primaire de la balance commerciale allemande de 6%. Cela se fait avec une dévaluation qui est une dévaluation fiscale, en quelque sorte. Mais cela se fait aussi par certains aspects, par la dévaluation monétaire. Comment ? Je ne crois pas. Peut-être bien, c'est un point de vue, je ne le partage pas. Je continue. D'ailleurs, je tiens à rappeler que en 83, c'était aussi un certain nombre de déficits de divergences structurelles qui avaient amené à la crise qu'on avait connue, et il n'y avait pas l'euro à l'époque. C'est-à-dire que l'euro révèle... exprime, mais il n'est pas la cause. Et la situation serait d'autant plus grave. La question est comment, au sein de l'euro, aujourd'hui, nous arrivons à répondre à la situation, et c'est à là que je veux en venir. J'en étais, avant de sortir de l'euro et de l'Europe, à cette problématique de la dévaluation monétaire de l'Allemagne. Lorsque vous avez l'industrie automobile allemande qui délocalise hors zone euro, notamment en Pologne, et que pour un euro, il y a 6 ans, il fallait 3 zloty et demi, et qu'aujourd'hui, il en faut 5 et demi, et qu'ensuite, sans supprimer l'emploi et en préservant la chaîne de valeur, ce qui est la bonne stratégie pour l'Europe d'ailleurs, elle préserve ses emplois, tout en jouant aussi d'une dévaluation compétitive sur les coûts. Elle joue sur les deux tableaux. Elle bénéficie à la fois du marché intérieur et bénéficie d'une dévaluation monétaire à ses frontières. Donc, lorsqu'on a dit ça, il y a un débat. Il y a un débat politique, point 1. Je pense que la supervision bancaire est une bonne chose. Parce qu'elle permet de mettre chacun devant ses responsabilités, elle permet d'avoir un œil indirectement sur le taux d'intérêt réel avec la masse de crédit délivrée. Il y a un débat sur le modèle. On a d'un côté ce que j'appellerais une conviction économique qui est dictée par la démographie. Vous savez, quand vous parlez avec les Allemands aujourd'hui, leur plus grande phobie est comment ils vont financer leur système de prise en charge de la dépendance. Nous sommes à une situation aujourd'hui en Allemagne où il y a sur la majorité du territoire une perte de population et un vieillissement. Et on ne peut pas reprocher aux Allemands de se poser cette question-là. Mais en même temps, l'Allemagne aujourd'hui voit bien que, et ça c'est un autre chiffre très important, c'est que lorsque je dis moins 15% de part de marché, plus 15% de l'Allemagne, ça résume aussi, lorsqu'on compare cela avec le déséquilibre de la balance des paiements des pays qui aujourd'hui sont incriminés, avec l'évolution de leur taux de crédit, au fait que tout simplement, lorsqu'on intègre ça au fait que 60% de notre commerce se fait entre Européens en Europe, eh bien, que la dette grecque, elle a payé les exportations allemandes. Que la dette espagnole aussi. Et donc, aujourd'hui, nous avons une sorte un petit peu de fuite en avant de ce point de vue-là. Et c'est là où il y a un débat politique. Je vous renvoie à la tribune d'économistes allemands, je crois, datée d'aujourd'hui, dans le monde, où en Allemagne, il y a ce débat. On commence à se poser la question. Parce qu'après avoir bénéficié des dettes, quelque part, et de la capacité du marché intérieur, aujourd'hui l'Allemagne se tourne vers les émergents. Sauf qu'il s'est passé quelque chose d'exceptionnel en Chine l'année dernière. C'est-à-dire qu'au moment où on a eu un soubresaut de reprise, 40% des importations chinoises ont été remplacées par 40% de consommation intérieure. C'est-à-dire qu'y compris chez les émergents, on substitue aux importations une consommation intérieure et une consommation de produits servant à la consommation intermédiaire de produits manufacturés au sein du pays. Donc les Allemands, là, se posent la question de... Il faut trouver un modèle vertueux commun, et c'est une question qui se pose, et je pense qu'il sera au centre de la campagne électorale allemande de 2013. Et il y a le modèle français, qui est peut-être un modèle hybride entre les deux, soutenu par la consommation, comme l'exprimait très bien le graphique dynamique que vous aviez avant, qui considère que il y a le coût de la main, c'est-à-dire le coût de la main d'œuvre, mais il y a aussi l'intelligence de la main, il y a aussi la compétitivité hors coût, celle qui ne se voit pas, celle qui fait qu'aujourd'hui l'Italie a un excédent primaire avant paiement des intérêts de sa dette de 5%, et ils ne sont pas cités en première ligne sur la compétitivité coût. Et donc là, il y a un débat à avoir sur l'économie européenne que nous voulons. Et je pense, et je terminerai par là, et vous disiez les politiques. Et moi, je pense que c'est à vous. Je vois beaucoup de jeunes dans la salle, de moins jeunes aussi. Mais à partir du moment où on accepte d'avoir une logique collective et commune sur, évidemment, le taux de change fixe et l'euro, à partir du moment où on accepte d'avoir... une politique convergente inscrite dans les traités en termes d'inflation. Il nous reste une marge de manœuvre, et je rejoins pleinement Christian de Boissieu, c'est le budget européen. Fonds structurels plus fonds de cohésion, c'est un tiers du budget européen, c'est 357 milliards d'euros. Ils ont servi jusqu'à présent, dans de nombreux cas, à financer la spéculation immobilière en Espagne, ou une spécialisation qui n'était pas forcément compatible avec un équilibre de la balance des paiements, notamment dans l'hôtellerie et la restauration, pour la Grèce. Ce budget européen, il doit être piloté avec une vision, et je terminerai par là. Et ça ne peut pas être 1%. Ça n'est pas possible. Et ça, c'est aux citoyens de s'emparer de ce débat et de sortir l'exigence de relèvement de l'Europe du secret de la diplomatie dans laquelle l'intergouvernemental enferme le débat du budget européen. Il faut, sur la question du budget européen, faire le saut fédéral. Parce que c'est à travers un budget européen que, notamment, on pourra revenir sur les erreurs réalisées ces dernières années, notamment en termes d'allocation factorielle des ressources. Dire avoir un budget européen qui finance des bulles immobilières, ce n'est pas forcément ce qu'on souhaite. Et donc il faut donner une perspective pour quelles infrastructures européennes nous voulons, quelle politique énergétique nous voulons. Et c'est un débat politique lorsqu'on voit que là aussi l'Allemagne a une politique non coopérative. Je me rappelle lorsque Merkel disait « je préfère le nucléaire allemand au gaz de Poutine ». Les choses ont beaucoup changé depuis que Schröder siège au conseil d'administration de Gazprom. Mais quelque chose qui est révélé là encore par le rapport Gallois sur une stratégie collective et commune de voisinage, notamment en approvisionnement de matières premières. Nous avons aux portes de l'Europe un continent, l'Afrique. 6% de taux de croissance par an. Comment avons-nous des coopérations, des logiques gagnant-gagnant, une politique de voisinage efficace, lorsque nous voyons qu'en Méditerranée, sur le pourtour méditerranéen, nous investissons un dixième de ce que nous avons investi dans les PECO sur les 15 dernières années. Alors qu'il y a des logiques complémentaires, de marché commun, de marché complémentaire. Budget européen, supervision, coopération, définition d'un modèle commun, ça n'est pas simple, mais je pense qu'il y a, dans la crise que nous vivons, malgré la douleur qu'elle provoque, une opportunité à saisir et qui vise à passer, comme je le disais précédemment, de l'Europe aux Européens.
Merci.